LSD, la série documentaire. Un podcast France Culture.
J'aurais pu naître comme des cousins proches ou lointains à Haïfa, à Baltimore, à Vancouver. J'aurais pu être argentin, australien, anglais ou suédois. Mais dans l'éventail à peu près illimité de ces possibles, une seule chose m'était précisément interdite. Celle de naître dans le pays de mes ancêtres, à Lubartov ou à Varsovie, et d'y grandir dans la continuité d'une tradition, d'une langue, d'une communauté.
Les parents de Georges Perec étaient juifs de Pologne. Ici, à Lubartov, avant le départ de la famille, est né le père de Georges, Itzhak Yudko Perec. Sa mère, Tzirla Shulevich, connue sous le nom de Cecilia, est née à Varsovie.
Son pays, c'est la Pologne. Et la Pologne ayant rejeté le monde juif avec une énergie terrifiante, c'est pas son pays. Il ne se sent pas polonais, il n'a jamais eu l'idée de dire « je suis polonais ».
Pourquoi, à votre avis, il accepte d'aller en Pologne ?
Sans doute qu'il voulait quand même régler son compte à l'histoire de Lubartov, voir si quelque chose allait lui parler là-bas. Or, Lubartov, c'est l'expérience du rien. Rien à voir, rien à signaler, rien ne lui a dit quoi que ce soit.
Sur les lieux de Georges Perec, une série documentaire de Claire Zalk et Diffy Mariani. Épisode 4, Lubartov, le lieu des origines.
La première rencontre, c'est... Je venais de lire « W ou le souvenir d'enfance » de Perec, et ça a été un choc. Qu'est-ce que j'aimerais connaître ce type ?
Robert Bobert, cinéaste et ami de Georges Perec.
Ayant appris que j'allais partir en Pologne faire un film, il voulait me parler que du film. Ce qui l'intéressait, c'était la Pologne. Il dit « Moi, je n'oserais jamais y aller ». Il l'a fait beaucoup plus tard. Mais là, il dit « Moi, c'est quelque chose que je ne pourrais pas faire, donc je veux absolument... voir ce film que j'ai dit, attends, tu me laisses faire le film, on verra après. Et j'ai tourné le film, je l'ai monté. Et en février 76, j'ai fait une projection au Globe 13 sur grand écran. Et à la fin du film, il est venu me voir pour me parler et il a éclaté en sanglots. Pardonnez-moi. Enfin, c'est des émotions qui vont revenir. Mais il se trouve qu'à partir d'un certain âge, les larmes aussi ont de la mémoire.
J'arrive à cet âge assez facilement, donc je vais vous accompagner, ça va être bien. Les larmes ont de la mémoire. Je nourris moi aussi une certaine ambivalence vis-à-vis de la Pologne. C'est le pays de naissance de deux de mes grands-parents, pays qu'ils ont fui en 1939, mais c'est l'un des principaux lieux d'assassinat des leurs pendant la Shoah. Dans mon travail, je réfléchis aux manières dont les hommes et les femmes sont ramenés, assignés, attachés à des lieux, hors de la perspective de l'enracinement. Au cours de mes enquêtes, je n'ai cessé de croiser Georges Perec. Mais cette fois, j'ai choisi de faire du pays de ses ancêtres, comme il l'appelle, mon nouveau terrain. Pour finir, je me demande donc ce que Lubartov, Lubartouf, si on le prononce à la polonaise, représente pour Georges Perec. Son père y est né et lui n'y a mis les pieds qu'une fois en 1981.
Au contraire de ce qu'il dit dans un texte qu'il publie en 1979 sur le projet d'Ellis Island,
Jean-Luc Joly, président de l'association Georges Perec.
À la fin de ce texte, il écrit que... Au fond, il ne voit pas pourquoi il irait à Lubartov, parce qu'il n'y reste plus rien, il n'y a plus de juifs à Lubartov. Bah, finalement, il va aller à Lubartov, à l'occasion donc de cette invitation en 1981, donnée avec d'autres écrivains français, une série de, de conférences ou de rencontres dans les instituts français de Pologne. Et il se rend à Lubartov.
Mais moi, j'avais vraiment, depuis longtemps, dans l'idée de faire venir Georges Perec en Pologne.
Michel Kochul, ancien directeur du Centre de civilisation française de Varsovie.
Cette visite de groupe d'écrivains, ça s'est réduit en fait à la visite de trois personnes. Donc il y avait Georges Perec, il y avait Claude Roy, qui était poète, romancier, et puis il y avait Serge Fauchereau, qui était un critique d'art. Et en fait, le lien, d'abord entre les trois, il s'est fait de façon très très remarquable. Parce qu'on a quand même, on s'est retrouvé en voiture à sillonner la Pologne, de Varsovie à Gdansk, de Gdansk à Varsovie, de Varsovie à Cracovie. Et ils se sont très très bien, on s'est très bien entendu, d'ailleurs moi aussi. Il y avait un côté joyeux équipé. D'abord, il était très, c'était très convivial, je dirais. C'était vraiment quelqu'un, on se sentait tout de suite à l'aise. Il était rieur, ironique, enfin, il avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humour en permanence. Et c'était quelqu'un avec qui on se sentait tout de suite en confiance et une convivialité assez extraordinaire.
C'est vous qui conduisiez la voiture
Oui. C'était une 304. Les routes polonaises, elles étaient pleines de cailloux, en travaux, étroites, on allait lentement, mais il n'y avait pas trop de circulation, donc c'était quand même relativement simple.
Simple, sauf que débarquer dans la Pologne communiste de 1981 n'a rien de simple. Quelques mois avant, les accords de Gdansk mettent fin à une période de grève massive en autorisant les syndicats libres. Une première dans le bloc de l'Est. Dès sa création, Solidarność connaît des millions d'adhésions. La situation politique est donc extrêmement tendue.
Le ton monte de nouveau en Pologne alors que les autorités de Varsovie ne cessent de mettre en garde le syndicat Solidarité contre la multiplication des grèves. Lech Wałęsa lance un appel à la grève générale d'occupation des usines en cas d'utilisation de la force par le gouvernement.
Ils sont arrivés le 1er avril 81. On sortait d'une période d'un mois qui avait été extrêmement tendue. C'était des périodes où tous les matins, on se demandait qu'est-ce qui va se passer, est-ce que les voisins sont arrivés, est-ce que le régime en place a mis une sorte d'état de siège. Et il est arrivé, oui, à un moment où c'était à la fois dur, et en même temps, on pouvait circuler. Moi, je dois dire que j'avais organisé une visite à Gdańsk, de contact avec l'Alliance française, par exemple, de Gdańsk, et puis des contacts avec les syndicats. Et on avait pu obtenir une entrevue avec les syndicalistes de Solidarność à l'hôtel Morski à Gdańsk. Oui, ça, c'est les photos de Georges Perec à Gdansk, devant les chantiers Lénine, les chantiers de construction navale.
Ballada o Sosie 7. Czerwony Radom, pamiętam siny, jak zbite pałką ludzkie plecy. Szosę 7, na dworce Gliny, jakieś pieniądze, jakieś adresy. Czerwiec nas zastał, z dala od miasta, jesienią Konrad już na nas czekał. Pierwsze pieniądze właśnie zebrano, pojechaliśmy, ktoś musiał jechać.
Il y aura quelques notes décrites sur un peu comme pour le voyage américain, mais très vite ça se réduit à pas grand chose. Mercredi, le voyage, l'arrivée, les trois avions en même temps de Paris, Londres, Istanbul, cohue, pagaille, les paquets, importation clandestine de fourrure de Turquie, accueil, transport à l'hôtel, l'hôtel, la chambre, le café de l'hôtel, promenade dans la vieille ville, tours, sirènes, licornes, la carte de Varsovie, un mot que je n'arrive pas à déchiffrer, là, du caviar rarissime, de la viande rarissime.
Le rationnement de la viande était l'une des revendications des grévistes de Gdansk au mois d'août. Il entrera en vigueur à partir du 1er avril prochain pour une période transitoire de 3 mois. Chaque Polonais aura droit en moyenne à 3,5 kg de viande par mois. En ce qui concerne le sucre, la ration par personne et par mois diminuera de moitié, passant de 2 à 1 kg par personne et par mois. Toutefois, les femmes enceintes et les enfants auront droit à 1,5 kg, ainsi qu'à une tablette de chocolat, autre denrée rare en Pologne. Les autorités ont cependant renoncé au rationnement du beurre.
To już naprawdę 5 lat minęło, znowu jesteśmy z dala od miasta. I tylko nie wiem, czy będę umiał znowu pojechać szosą Eileś. Gdy przyjdzie pora i co odpowiem, gdy ktoś mnie spyta, gdzie wtedy byłeś.
C'était vraiment l'époque la plus difficile. Où tout était rationné, le sucre, il y avait même des tickets de rationnement, les chaussures, le sucre, la farine, mais il y avait beaucoup de solidarité dans tous les sens du terme.
Eva Pawlikowska, traductrice.
On faisait la queue aussi pour acheter des livres, d'excellentes traductions de Marquez, de Nabokov, mais il fallait faire la queue ou connaître bien un libraire qui vous le mettait de côté. Voilà, moyennant... une boîte de chocolat ou un ordre d'engrais utile.
Pérec, lui, d'emblée, il m'avait écrit, il m'avait signifié qu'il voulait, si possible, aller à Lobartouf. C'était le début des années 80. C'est une époque où on n'avait pas d'Internet. On n'avait pas, moi, je n'avais pas de carte de Lobartouf. C'était compliqué.
Aujourd'hui, on met 2 heures de Varsovie pour rejoindre cette petite ville de l'est de la Pologne à 30 km de Lublin. Ville ordinaire de 20 000 habitants, elle en comptait 8 000 dans l'entre-deux-guerres. Ville un peu endormie, sur laquelle je travaille depuis maintenant 5 ans avec une équipe de chercheurs. Nous reconstituons une par une les trajectoires de ces habitants juifs des années 1930 aux années 1950. Qu'ils soient partis ou restés, qu'ils aient survécu à la Shoah ou pas. À Lubartov, je cherche précisément à comprendre la nature des relations entre un lieu et ses originaires, par-delà la migration et la persécution. Et Pérec, en 1981, qu'est-ce qu'il vient chercher à Lubartov, lui ?
Il cherchait, c'était assez difficile de lui faire dire ce qu'il cherchait. Enfin, si, il cherchait des traces de sa famille. C'était difficile de se faire une idée vraiment de ce qu'il recherchait. Il recherchait un lieu, c'est sûr.
J'aimerais qu'il existe des lieux stables, immobiles, intangibles, intouchés et presque intouchables. Immuables, enracinés. Des lieux qui seraient des références, des points de départ, des sources. Mon pays natal. Le berceau de ma famille. La maison où je serais né. L'arbre que j'aurais vu grandir. Que mon père aurait planté le jour de ma naissance. Le grenier de mon enfance empli de souvenirs intacts. De tels lieux n'existent pas. Et c'est parce qu'ils n'existent pas que l'espace devient question. Il me faut sans cesse le marquer, le désigner. Il n'est jamais à moi, il ne m'est jamais donné. Il faut que j'en fasse la conquête.
une grande rue, Lubelska, de Lublin.
Plusieurs petites rues parallèles.
Tilleul, corbeau, église, château.
Pense. Arme de la ville, un arbre entre deux lions. C'est Lubartov.
L'emblème de Lubartov.
Enseigne d'un fabricant de cercueils.
Je le revois encore avec un petit bloc-notes. On était dans Lubartov, dans ces petites rues de Lubartov, et il y avait une enseigne, petite enseigne, un petit panneau de bois peint qui ne devait pas faire plus de 50 cm de long. Il est tombé en arrêt là-devant. On a cru d'abord que c'était un train. Et en regardant de plus près, c'était un fabricant de cercueils en bois.
Ensuite, j'allais être dans le monde, allait être marqué par cette espèce de zone, enfin de terrain incognita, enfin de terre inconnue, dans laquelle il s'était passé quelque chose que je ne connaissais pas, que je ne pouvais pas appréhender, que je ne pouvais pas saisir.
Quand on est arrivé à Lubartov, c'était un dimanche. Alors, il faut imaginer une petite ville polonaise comme ça, de l'Est, dans les années 80 en plus. Ça voulait dire, d'une part, sortie de la messe. Gens endimanchés dans les rues, son des cloches. En allant un peu plus loin, il y avait un marché. Les paysans étaient venus avec leurs charrettes. Et il y avait un endroit qui était une espèce de garage à charrettes et à chevaux. Et ça, ça l'a tout de suite mis en ravissement. C'est-à-dire qu'il a dit « Ah, mon grand-père s'occupait de chevaux pour la garnison russe ». Donc il était comme ça, à chercher et à prendre beaucoup de choses.
Programme du Ciné-Club, entre autres, Bobby Darfield de Sidney Pollack, photographe, section locale de Solidarité. 7 à 8 messes le dimanche, foule en dehors de l'église, chevaux et carrioles attendent à côté. Restaurant Dancing, Astra.
C'est vite fait le tour de Lubartov. Qu'est-ce qu'il a vu là ? Il cherchait des traces qui auraient pu évoquer la période où près de la moitié, pas tout à fait, de la population était juive. Et il n'y en avait plus.
Franek Zarchrewski, historien.
Nous sommes ici sur la place du marché de Lubartov. En 1939, avant le début de la guerre, il y avait environ 3300 juifs, ce qui constituait à peu près 40% de la population de la ville. Les persécutions arrivent à leur apogée en 1942, avec une première action de déportation en avril et une deuxième vague de déportation en octobre qui décime la quasi-totalité de la population juive de Lubartov. Les sources montrent qu'il y a eu, en outre, durant l'année 1942, de nombreux assassinats de juifs, dont le plus important s'est déroulé dans le cimetière juif de la ville. 300 juifs y ont été fusillés. Seulement quelques dizaines de juifs ont réussi à survivre à la guerre, à Lubartov, mais surtout dans les environs. À peu près une quarantaine de personnes. Ce n'est pas tout. Nous avons des témoignages qui montrent que les juifs qui sont revenus à Lubartov après la Seconde Guerre mondiale n'ont pas été bien reçus. Ils n'ont pas été les bienvenus. Dans le bulletin de l'agence de presse juive, publié après la Seconde Guerre mondiale, on trouve un article qui raconte qu'un attentat a eu lieu contre une maison de la ville. Une bombe a été posée, qui visait la maison de Weinberg, le principal représentant de la communauté et de la vie juive d'après-guerre.
Ils étaient 3300 juifs à Lubartov en 1939. On n'en compte plus que 66 enregistrés après la guerre. Plus de 90% des juifs de Pologne ont été décimés par la Shoah. Mais l'antisémitisme ne faiblit pas. Au pogrom de l'après-guerre succèdent les violentes campagnes antisémites de 1956 et de 1968. Quelques semaines avant l'arrivée de Pérec, dans les rues de Varsovie, on entend encore des slogans contre les Juifs. Interactualité, France Inter, 9 mars 1981.
Les vieux démons de l'antisémitisme que l'on pouvait croire enterrés depuis 13 ans ont ressurgi hier à l'occasion de l'anniversaire des émeutes étudiantes de mars 1968 qui s'étaient soldées à l'époque par l'émigration de plusieurs dizaines de milliers de Juifs polonais. Alors que les étudiants commémoraient dans le calme à l'université le souvenir de ces événements, une nouvelle organisation, appelée Union Patriotique Grunewald, tenait une véritable contre-manifestation pour célébrer le souvenir des victimes du stalinisme, insinuant que les bourreaux de l'époque étaient tous des Juifs.
L'histoire était toujours très, très complexe, je dirais, entre les Polonais et les Juifs. Et en plus, le gouvernement de l'époque ne s'encombrait pas avec l'histoire, c'est-à-dire les synagogues qui n'ont pas été détruites, on en faisait des greniers à blé, par exemple, ou des magasins de stockage, voilà. Et il n'y avait pas cette préservation dans le cimetière qui était détruit ou vandalisé même.
Donc il n'y avait plus de synagogue. Je me disais, on pourrait trouver des traces de pierres tombales, de cimetières, comme on en trouvait très souvent. Mais à Loubartouf, à cette époque-là, je n'ai pas réussi à trouver. Et c'est vrai que ça, je crois que le cimetière, il avait été démoli, cassé. Et de toute façon, ces cimetières, ils ont été ensuite pillés pour faire des pierres, des pavements.
Bonjour, je m'appelle Wojtek Karliński. Je suis un vrai Loubartovien. Mes ancêtres, mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents ont toujours habité à Loubartov. Ils habitaient ici avant la Première Guerre mondiale, avant la Seconde Guerre mondiale et jusqu'à maintenant. Et donc j'ai la mémoire des endroits de Loubartov. Et ici, là où nous nous trouvons, jusqu'en 1817-1818, il y avait un cimetière juif, le vieux cimetière juif que nous appelons le Kirkout. Juste à côté de l'endroit où nous nous trouvons, à 50 mètres à peu près, il y avait donc la synagogue qui a été construite entre les années 1860 et 1870. Donc elle était en pierre avec un toit en tôle et l'entrée, d'après les documents qu'on trouve, se faisait par le côté nord. Il y avait aussi une partie pour les femmes séparées. Malheureusement, je ne me souviens pas de cette synagogue. Je suis né pendant la guerre et j'étais tout petit. Et d'après ce que m'ont dit les habitants, donc les Allemands ont fait détruire cette synagogue. Donc elle a été détruite, démolie. Par contre, il y avait aussi une autre petite synagogue, on l'appelait comme ça, la petite synagogue. Donc c'était une maison de prière juste à côté. Et ce bâtiment, lui, existe encore. Comme je l'ai déjà mentionné, il y avait ici un cimetière juif qui a été déplacé au début du 19e siècle. Mais ensuite, les Allemands ont fait démolir tout ce qu'il y avait ici. Et après, dans les années 60, on a construit une crèche et une école maternelle. Il y avait aussi un square pour les enfants avec un manège, des balançoires, etc.
Lorsqu'on arrive dans la petite bibliothèque municipale de Loubartov, une belle pierre tombale gravée d'inscriptions hébraïques est posée sur une table au milieu de livres. Je demande à Grégor Winiszki, le directeur, ce qu'elle fait là.
C'était avant mon arrivée à la bibliothèque. Un des employés a reçu un coup de téléphone d'un habitant qui lui a dit qu'il avait cette matseva, cette pierre tombale, chez lui. Andrzej l'a récupérée. Ils ont fait une réunion pour décider quoi en faire. Ils ont trouvé que ça ne serait pas utile de la replacer dans le cimetière juif. Et ils ont décidé de la garder ici, à la bibliothèque, pour pouvoir l'exposer, la montrer de temps en temps.
Quand
je suis arrivé ici et que j'ai vu ça, au vu de mon expérience personnelle, j'ai tout de suite senti que ce n'était pas bien. Ça ne devrait pas avoir lieu de garder une matseva comme ça ici et de la sortir de temps en temps. Mais c'est leur approche. Pour eux, c'est un objet purement historique. Ils ne perçoivent pas son caractère religieux.
Marek Danielkiewicz, éducateur.
Le cimetière juif, c'était mon terrain de jeu. J'étais dans une situation un peu particulière parce que la maison où je suis né, la maison dans laquelle j'ai grandi, est voisine avec le cimetière juif. Et quand j'étais petit, donc ça semble bizarre, mais je jouais sur le terrain. C'était une période où les vaches y broutaient encore, en évitant les vieilles pierres tombales du cimetière. Donc elle se promenait là. Et c'était quelque chose qui a beaucoup façonné mon imagination en tant qu'enfant. Cette image des vaches entre les pierres tombales.
Donc il n'y a pas de cimetière. Et plus de population juive, en tout cas, plus d'interlocuteurs. Et c'est comme ça que quand il est rentré à Varsovie, les autres lui ont demandé, il a dit rien, tout est effacé. Ce qui, en un sens, correspondait à la réalité de cette année 1981. C'était effacé.
Retrouver quelque chose de très ancien, d'enfoui, d'enquisté, un peu comme un archéologue, et essayer de le faire apparaître à travers des choses qui restaient comme des documents, mais qui avaient perdu leur substance réelle. C'était des sortes de témoignages, un peu comme si je m'étais trouvé en face de hiéroglyphes, et avec des éléments analogues à la pierre de Rosette, qui me permettraient d'en faire la traduction. Mais pour raconter quelque chose qui serait mon histoire et en même temps dont je saurais que j'en étais dépossédé. Et il fallait que je, par-dessus ce blanc, enfin ce trou, ce vide, j'aille à ma recherche.
Ma première rencontre avec Georges Perec date du mois d'avril 1981. C'était à Varsovie. Je venais juste de terminer mes études en ce qu'on appelle chez nous la philologie romane, c'est-à-dire les lettres françaises à l'université de Varsovie. Et j'ai commencé ma collaboration avec une revue littéraire. Et c'est comme ça que j'étais invitée à rencontrer Georges Perec au siège de la revue Literatura na Świecie, parce que je commençais à traduire déjà La vie mode d'emploi.
Vous avez quel âge ?
25 ans. Et j'étais très impressionnée quand on m'a demandé de faire un entretien avec un grand écrivain français. Donc ma rencontre, je préparais une liste de questions. Et finalement, je trouvais que c'était quelqu'un de très aimable, plutôt timide. J'étais très intimidée, mais je pense que lui aussi. Et il a répondu avec beaucoup de détails et de façon très, très sincère aux questions que je lui avais posées, et notamment sur son travail d'écrivain. À la fin de mon entretien, je lui ai posé une dernière question concernant ses origines en lui lisant une lettre que j'ai extraite de la correspondance de Franz Kafka avec Milena, où Franz Kafka écrit la chose suivante. « Nous connaissons tous les deux à foison des exemplaires typiques de juifs occidentaux. De tous, je suis, autant que je le sache, le plus typique, c'est-à-dire, en exagérant, que je n'ai pas une seconde de paix, que rien ne m'est donné, qu'il me faut tout acquérir, non seulement le présent et l'avenir, mais encore le passé, cette chose que tout homme reçoit gratuitement en partage. Cela aussi, je dois l'acquérir. C'est peut-être la plus dure besogne. » Franz Kafka.
C'est ce que j'écris à la fin d'Espèce d'espace. Je n'ai pas de maison, de famille, je n'ai pas de grenier, comme on dit, je n'ai pas de racines, je ne les connais pas. Je suis allé dans le village, au berceau de ma famille, comme on dit. Il n'y avait rien à retrouver. Et ce que je cherche à travers l'écriture, c'est de laisser des traces de ma mémoire. D'où peut-être ma passion pour les dictionnaires, car les dictionnaires, c'est la mémoire des hommes.
Il avait le projet d'écrire l'histoire de votre famille.
Oui. Vous savez, il a toujours aimé les structures, Georges.
Sylvia Richardson, petite cousine et filleule de Georges Perec.
Et sur la famille, évidemment, la structure, c'était l'arbre généalogique. Donc ce projet s'appelait l'arbre. Et il a commencé à essayer de reconstruire jusqu'où il pouvait l'arbre généalogique de toutes les branches de la famille. Il en savait plus que nous tous.
En 1967, donc au moment où il a ce projet de l'arbre, c'est-à-dire d'écrire sur ces trois familles, maternelle, paternelle et adoptive, même si au bout du compte, donc il n'écrira rien sur sa famille maternelle, Perec se livre à une série d'entretiens très intenses, très suivis avec sa tante Esther, qui paraît-il sort littéralement épuisé de ses rencontres avec Georges. Et il tient des carnets à cette occasion-là. Ce sont des notes prises au fur et à mesure qu'Esther parle. C'est relativement difficile à lire. Bois, lac, un peu en dehors de la ville, petite maison, poule, fleurs. Époque la plus heureuse de ma vie, 1914, ensuite 18 ans. Donc, sous cette forme sténographique, avec des abréviations et encore une fois de grandes difficultés de lecture, il y a ce jeu, enfin c'est pratiquement un enregistrement par l'écriture de la parole de sa tante Esther. Donc je crois que les premières pages sont consacrées à sa vie, les indications sont aussi précises que possible, et c'est je crois ce que souhaitait Georges Perec quand il interrogeait sa tante paternelle. Suis allé à l'église, entendu prêtre dire choses affreuses sur juifs, peur. Par exemple, ce genre de notation.
Et à Noël, les catholiques font le chemin de croix avec des torches. Et elle va dans l'église catholique, donc, et elle entend le prêtre dire des choses effroyables sur les juifs, et elle a peur. Vous voyez, là, il y a des pages de notes de certains entretiens. Par exemple, je vois à 7-8 ans, ça c'est certainement un entretien avec ma grand-mère, un cours privé pour apprendre le polonais. Rose, donc c'est sa mère, a une affaire de bois, Léon naît en 1904. Esther à ce moment-là, 18 ans, est l'élève. Non, faux, Esther a 8 ans, il corrige. Izzy naît à elle, donc elle, ça doit être Lubartov, en 1909, et eux, l'élève, c'est-à-dire vers 12 ans. Donc ça, c'est les notes de Georges sur ce que ma grand-mère a dit.
W księdze ludności stałej miasta Lubartowa w domu pod numerem 2 mieszkał Dawid Perec, syn Szoela Józefa i Małki. Urodził się w 1870 roku. Daty dziennej nie mamy. Pochodził z Lubartowa. Był małżonkiem Sury Rojzy Perec.
Si Anna Oursan, l'archiviste des Archives nationales de Lublin, a du mal à déchiffrer cette page, c'est que les inscriptions sont en cyrillique. Il s'agit en effet du registre de population de la ville de Lubartov d'avant la Première Guerre mondiale. À cette époque, la ville fait partie de l'Empire russe et toutes les archives officielles sont en russe. Je connais bien ce registre. Il est très utile dans mon enquête car il permet de connaître la population de la ville maison par maison. Sur la page 108, on trouve David Perec, le grand-père de Georges, né en 1870, sa grand-mère Rose, née Wallerstein en 1878, et quatre enfants. Esther, l'aînée, celle qui adoptera Georges après la guerre, Shmuel, né en 1900 et mort en 1902, à l'âge de 2 ans, Leijzor, né en 1904, et Itchak Yudko, le Benjamin, le père de Georges Perec, né en 1909. Toute la famille est réunie sur la même page, tous enregistrés comme juifs. Dans la colonne moyen de subsistance, David est dit marchand et Rose auprès de son mari, ce qui n'est pas vraiment raccord avec les souvenirs de famille.
Ben voilà, Lou Bartoff. Histoire de Rose et de David. Donc il essaye d'écrire. Rose, donc, qui était mon arrière-grand-mère, elle a épousé ce David, je ne sais pas quand. Mais en fait, lui, c'était un homme, je crois, très doux, très gentil, mais très pieux et très... il étudiait les textes, il était plongé dans la pensée religieuse. Et donc, en fait, c'est Rose qui faisait vivre le ménage. Rose, elle était, d'après ce qu'on raconte, c'était une femme qui faisait les choses énergiques et très courageuse, parce qu'en fait, c'est elle qui gagnait l'argent, qui faisait vivre la famille. Elle avait un magasin. Et de fait, elle mettait sa fille Esther à contribution pour s'occuper des autres enfants. Donc Léon et Izzy.
Il y a plus d'une centaine de Perec enregistrés à Lou Bartoff avant 1914, mais seulement 22 en 1932, et plus que 15 en septembre 1939. J'en retrouve aux États-Unis, en Palestine, en France, en Amérique du Sud. Qui part? Qui reste? Où aller? Avec qui? Pourquoi partir? Je pose la question à Witold Dąbrowski de Brama Grodzka Théâtre NN, institution qui œuvre à la mémoire des Juifs de la région de Lublin.
Je pense que la tante, donc Esther, la tante de Georges Perec, nous apporte une très bonne réponse à cette question. Une jeune femme éduquée, qui est professeure dans une école polonaise, décide d'émigrer. Et on pourrait penser qu'elle pourrait vouloir se construire une vie ici, mais pour une certaine raison, elle décide de partir.
Ils partent parce que la situation des Juifs était... Ils partent à cause de ça. Ils partent parce que, manifestement, oui, ils sentaient une menace. Ils sentaient... Et ma grand-mère, qui était très angoissée, et son angoisse lui faisait faire les choses, et elle anticipait, et elle comprenait très bien les situations. Et puis, de toute façon, je pense qu'ils voulaient un nouveau départ. Ils voyaient la France, ils étaient cultivés, ils voyaient la France comme un pays de lumière, finalement, un pays où on était libre, où pays attrayant aussi du point de vue culturel, en fait.
Tous émigrent en France dans les années 1920, mais pas tous ensemble. Esther, l'aînée, part la première en 1922 avec son mari David Bienenfeld et leur fille Bianca, âgée de 18 mois. Itchek, le plus jeune, le père de Perec, n'arrive à Paris, sans doute avec ses parents Rose et David, qu'en 1927. Cette même année, une nouvelle loi permet aux étrangers de demander leur naturalisation s'ils résident depuis plus de 3 ans sur le territoire. On peut retrouver aux Archives nationales le dossier de naturalisation d'Esther et son époux. Dans une lettre, ils expliquent, je cite, qu'ils sont fixés d'une façon définitive en France où les retiennent toutes leurs sympathies et leurs intérêts d'avenir et de famille et qu'ils voudraient devenir français. C'est chose faite en février 1928.
Entre eux, ils parlaient quelle langue ?
Moi, je ne les ai jamais entendus parler que français. Quand ils sont venus en France, ils ont vraiment coupé les ponts. Ils se sont intégrés, ils parlaient que français et ils ne voulaient plus parler polonais.
Ni polonais, ni yiddish.
Non, yiddish, vraiment pas, je pense. Mais polonais, peut-être quelques mots. Je connais une chanson pour les bébés que chantait ma grand-mère en polonais. Je la chante encore. C'est « A-A kot kidwa, chare bourre obedwa ». Après, on dit le nom du bébé, Korlichi. C'est la seule chose que je sache de polonais, mais ça, ma sœur et moi, ma sœur Marianne.
Elle vous chantait ça?
Elle nous chantait ça, oui.
En mars 1941, le régime de Vichy retire la nationalité française à Esther, David et leurs deux filles. On peut lire dans le dossier la mention qui précise les raisons de cette dénaturalisation. Israélite, pas d'intérêt national. On trouve aussi la lettre de protestation qu'ils écrivent aussitôt.
À Monsieur le garde des Sceaux, ministère de la Justice, Paris. Monsieur David Bienenfeld et sa famille ont eu la douloureuse surprise d'apprendre que par décret du 21 mars 1941, la nationalité française leur avait été retirée en vertu de la loi du 22 juillet 1940. Monsieur David Bienenfeld ne peut s'expliquer une pareille mesure prise à son égard, mesure qu'il a jetée dans la plus grande consternation. Il ne croit pas avoir démérité de la confiance des autorités françaises. Il s'est soumis aux lois de recrutement. Il a été rappelé sous les drapeaux par ordre du ministère de la Guerre le 30 août 1939. Il y a rempli son service. Sa femme a servi pendant la guerre comme infirmière à la société de secours aux blessés militaires. Elle a perdu son frère, André Pérec, qui est mort pour la France le 19 juin 1940, et elle s'est chargée de l'éducation de son neveu, orphelin de 5 ans. Monsieur David Bienenfeld est donc persuadé qu'un nouvel examen de sa situation fera rapporter le décret qui lui a retiré, ainsi qu'à sa famille, le bénéfice de la nationalité française. C'est pourquoi il vous demande acte de ce qu'il exerce le recours prévu par la loi et vous prie d'agréer, monsieur le ministre, l'assurance de son profond respect.
Mon grand-père était plus attentiste, d'une certaine manière, et extrêmement réglo. Enfin, il était très... Lui, il suivait toujours les règles et donc il croyait... Par exemple, si on disait les juifs seront protégés, il aurait plus de standards. Et croire que ma grand-mère, qui était plus... son angoisse ou son intelligence faisait qu'elle comprenait très bien les situations. Quand la guerre s'est déclarée, elle était beaucoup plus consciente des... Elle croyait pas à ce que les gens disaient, elle sentait les choses, elle voyait que ça allait être terrible. Et c'est, en fait, je pense grâce à elle et à son angoisse qu'à un moment, toute la famille est passée, tant bien que mal, en zone libre.
Angoisse ou intelligence? Il est vraiment difficile d'interpréter aujourd'hui avec justesse ces comportements face à la persécution, parce que nous connaissons la fin de l'histoire, alors que eux ne la connaissent pas. On peut constater a posteriori que ceux qui sont restés en Pologne ont été assassinés, pour la quasi-totalité d'entre eux. Mais partir en France, était-ce le bon choix? Je compte 84 personnes née à Lubartov et déportée depuis la France pour les centres de mise à mort en Pologne.
Pour
moi, c'est vraiment symbolique, l'histoire de ces personnes juives, comme par exemple la mère de Georges Perec, ces personnes qui décident de s'enfuir, de quitter la Pologne, et qui sont ramenées en Pologne de force pour y être assassinées.
Les deux enfants, Yutka et Cholek. Kleinberg, père et sa famille. Kleinberg, famille, Landon Richer. Sa femme Rivka et ses enfants, Elka et son fils Samek. Motul, Marie Scheindl, Perla et Myrla. Langman, Yidl, son épouse Male et leurs enfants de Voyrechane. Langman, Heiner. Langman, Rucho, son épouse Spitalnik et leurs quatre enfants. Landon Schloima, son épouse Scheindl. Et c'est les enfants, Chai, Sim, Elka, Baila, Liba,
chaque année, au cimetière de Bagneux, des membres de la société Les Amis de Lubartov lisent les noms de leurs disparus sans sépulture.
Ce qui m'intéressait beaucoup, justement, ce sont les origines juives polonaises de Georges Perec, surtout qu'il était prévu dans le programme en Pologne, j'avais prévu d'aller aussi à Auschwitz. Et finalement, il n'y est pas allé. C'est-à-dire les autres personnes de la délégation française y sont allées, mais il resta à l'hôtel à Cracovie et il a refusé d'y aller. Je pense que ça aurait été une expérience tellement traumatique qu'on m'a dit qu'il était ivre mort. Il ne voulait pas y aller, donc il a passé la nuit à boire.
Il cherchait des traces de sa famille, mais sans que... Il n'est pas arrivé avec des adresses, par exemple. Mais visiblement, il avait quelques idées, en particulier, il avait des souvenirs racontés dans sa famille sur une grande maison avec une grande cour qui appartenait à son grand-père. Mais il n'avait pas d'adresse. Donc on s'est retrouvé à chercher dans Loubartouf une maison et une cour qui correspondaient à peu près à ça, sans trouver.
Les Juifs sont assez nombreux à Loubartouf, mais il n'y a pas de ghetto. La maison de Joseph, où vivent David et Rose et où sont nés Esther et Léon, sinon même Izzy, est coincée entre le parc d'un noble polonais, la place du marché et l'église. Donc vous avez tout.
Je me suis prise au jeu, tentée de retrouver la maison du père de Perec à Loubartouf. Qu'est-ce qu'il dit exactement sur la maison?
Il dit « La fenêtre d'Esther donne sur une église entourée d'un grand jardin ». À L, c'est Loubartouf peut-être, dans la maison en U. Et là, il y a un peu un genre de schéma. Et là, on voit comme une trois pans de maison qui entourent une cour avec de nombreuses ouvertures. Comme un bâtiment de ferme, vous voyez, avec trois, mais ce n'est pas une ferme, mais il y a une maison et des pans et des arbres au fond et des petits personnages. Et c'est un très bon croquis, la perspective est bonne. Georges savait très bien dessiner.
On voit très clairement dans la cour la forme du U. C'est assez même étonnant. Donc c'est très, très vraisemblablement la maison où est né le père de Perec. Ce qui est quand même très émouvant, c'est de penser qu'il était si proche. Parce qu'on est quoi, à 50 mètres de la place du marché.
On a dépouillé les archives, on a établi des tables de correspondance entre les adresses d'hier et celles d'aujourd'hui, et on se retrouve, sans trop y croire, devant une maison qui ressemble étrangement aux descriptions. Et sur la façade, on lit « Salon de coiffure ». Comme un clin d'œil au 24 de la rue Villain. Mais que faire de cette petite trouvaille? Je n'ose la partager avec les officiels qui s'affairent à monter un festival Georges Perec à Loubartouf. Petite ironie de penser qu'il est appelé à devenir une gloire locale.
Moi, quand j'ai voulu travailler sur le lieu...
Isée Bernato, psychanalyste.
En fait, c'est parti d'un paradoxe. J'avais envie de réfléchir à l'idéologie nationale, à l'idéologie qui dit « je suis le lieu ». Le Blund und Boden, le sol et le sang, je viens de là, je suis de là. Il n'y a que ça qui compte, avec son corollaire immédiat qui est la haine de l'étranger. Voilà. J'avais envie de réfléchir à ça parce que ça me paraissait très dangereux. Sur le plan idéologique, enfin en tout cas, comporter une dimension de destructivité immédiate, quoi. À l'autre bout du spectre, il y avait Perec. Il y avait, oui, mais quand même, quand on a le sentiment de venir de nulle part, c'est une souffrance. Alors qu'en fait, ça serait bien de venir de nulle part. Et d'ailleurs, on voit bien que dans les mouvements politiques, universalistes, il y a cette idée, dans l'espéranto, de voilà, justement se débarrasser de ces appartenances-là. Et en même temps, Pérec, il venait dire « Ah oui, mais attention, c'est douloureux, c'est une douleur. » Alors du coup, bah, ça formait une question. Est-ce qu'il faut avoir des lieux? Est-ce qu'il ne faut pas en avoir?
La campagne. Alternative nostalgique et fausse. Ou bien s'enraciner, retrouver ou façonner ses racines, arracher à l'espace le lieu qui sera vôtre, bâtir, planter, s'approprier millimètre par millimètre son chez-soi, être tout entier à son village, se savoir Sévenol, se faire Poitevin, ou bien n'avoir que ses vêtements sur le dos, ne rien garder, vivre à l'hôtel et en changer souvent, échanger de ville, échanger de pays, parler, lire indifféremment 4 ou 5 langues, ne se sentir chez soi nulle part, mais bien presque partout.
Ça construit quelque chose qui est un mouvement passionnant chez lui, qui est continuellement posé la question de l'origine. D'où vient que...
Claude Burgelin, biographe et ami de Georges Perec.
Et c'est une question, je la rapproche de la démarche des Lumières, qui s'interroge sur l'origine des phénomènes sociaux, Rousseau, Diderot, etc. D'où vient que... Et ce qui rend Espèce d'espace un texte magnifique, c'est justement la façon dont il pose tout le temps, sur des gestes très simples ou des conduites élémentaires, la question de l'origine, d'où vient que... Alors, peut-être que je suis très loin de Loubartov en disant cela, mais il me semble que cette question de l'origine, elle est... Il sait qu'il est impossible de répondre à la question de l'origine. Mais elle est là, il la pose. Comment est-ce qu'on peut avancer dans cette question? Et comment est-ce qu'il faut la reposer à chaque instant?
Ce qu'il montre, c'est que le rapport au lieu, c'est quelque chose qui se fabrique à l'intérieur d'une langue. Et on peut dire que le lieu de Pérec, le lieu dans lequel il a vraiment habité, c'est magnifique d'ailleurs, c'est la littérature. C'était vraiment son lieu de vie.
J'ai un foyer, j'ai un chat. J'ai des livres, j'ai des fleurs, j'ai des objets que j'aime. Et j'ai un travail qui me passionne, qui m'absorbe complètement. Je suis très heureux quand j'écris. J'ai un lieu où vivre, qui est à Paris. Je suis bien chez moi. J'ai un très beau bureau dans lequel je travaille, avec une bibliothèque et des livres et les auteurs que j'aime. Et je peux travailler 10 heures par jour et j'aime ça.
Mes espaces sont fragiles. Le temps va les user, va les détruire. Rien ne ressemblera plus à ce qui était. Mes souvenirs me trahiront. L'oubli s'infiltrera dans ma mémoire. Je regarderai sans les reconnaître quelques photos jaunies au bord tout cassé. Il n'y aura plus, écrit en lettres de porcelaine blanche collées en arc de cercle sur la glace du petit café de la rue Coquillière, ici on consulte le bottin et casse-croûte à toute heure. L'espace fond comme le sable coule entre les doigts. Le temps l'emporte et ne m'en laisse que des lambeaux informes. Écrire. Essayer méticuleusement de retenir quelque chose. Arracher quelques bribes précises au vide qui se creuse. Laisser quelque part un sillon, une trace, une marque ou quelques signes.
Mon choix des lieux, vous en pensez quoi, le choix de mes 4 lieux?
C'est une intersection entre vous, votre travail d'historienne, votre passé votre personnalité, vos recherches, etc. Et Georges, c'est un choix historique sur les racines qui n'est pas forcément ce qu'on peut penser sont les lieux de Georges. Mais c'est, j'ai trouvé que c'était intéressant. Mais bon, Georges, lui, c'était vraiment un Parisien. Et les lieux de Georges, c'est la ville et c'est Paris. Il avait aussi ce côté recherche, racine, historique. Donc, il est allé jusqu'à New York, il a fait le voyage en Pologne. Mais est-ce qu'on peut appeler ça les lieux de Georges? Enfin, c'est un choix très intéressant. C'est pas le choix du livre « Lieu ». Comme vous savez, la seule coïncidence, c'est la rue Villain.
Le lieu des origines est un nom qui a fasciné Pérec, ce nom de Burguline.
La Tunisie.
Alors, le lieu des origines...
Le lieu des origines...
C'était un petit manoir en Anjou, très perdu.
On va dire que c'est le Maroc.
Je ne sais pas.
Je répondrai que cet endroit, ce lieu, est la Pologne, mais une Pologne que je pourrais accepter.
Des origines, mais au pluriel.
Et c'est la rue Saint-Denis, parce que c'est chez ma grand-mère.
Je pense qu'on a plusieurs lieux des origines.
C'est Vola Radichowska.
Quand j'étais très jeune, mais j'étais de façon viscérale attirée par la France.
À Zara, en Corse.
Mais c'est des origines un peu fantasmées en même temps.
Je suis incapable de répondre. Le lieu des origines.
Je dois dire Chicago.
Je ne sais pas.
Finalement, c'est ici. C'est dans cette maison. Vraiment, cette maison, ce quartier, je me sens chez moi.
Merci à Michel Cochoul, Eva Pawlikowska, Sylvia Richardson, Jean-Luc Joly, Robert Bobert, Claude Burgelin, Witold Dąbrowski, Marek Danielkiewicz, Grzegorz Winiszki, Wojciech Harlinski, Anna Hursan, Franek Zarzewski et Izé Bernato. Merci aussi à Christophe Pachnik, Alexandra Jedryszka, Alexandra Wlodarczyk, Charlotte Roux, la merveilleuse équipe Loubartfold et Abiba Chaouch. Lecture, Benjamin Habitant, Olga Grimbert, Jérôme Moreau-Marron. Traduction, Anya Blumstein. Prise de son, Patrick Muller, Christophe Papon. Mixage, Bruno Mourlan. Documentation, Anne-Lise Signoret. Archivina, Véronique Jolivet. Chargée de programme, Marie-Vonne Abolivier et Anaï Morales. Coordination, Johanna Bedeau. Sur les lieux de Georges Perec, Lou Bartoff, Le lieu des origines. Un documentaire de Claire Zalk réalisé par Diffy Mariani. Les pages web sont sur franceculture.fr et le podcast sur l'appli Radio France.